Nomade, deuxième émission dans cette thématique hors les murs. Une émission attentive à la danse des corps dans le décor des rues. Le secteur de la danse est en effet devenu un segment étroit du marché, comme disent nos amis du marketing, et nombre de compagnies investissent l'espace public par goût et inclination sûrement, mais peut-être aussi par défaut, tant les lieux accueillant des créations chorégraphiques contemporaines sont au fond peu nombreux. Et d'ailleurs, ils se mettent parfois aussi au nomadisme, les diffuseurs, à l'instar du Merlan. Le Merlan est en effet engagé depuis deux saisons dans un vagabondage savamment programmé et réfléchi. Nous rencontrerons tout à l'heure Nathalie Marteau, sa directrice. Nous rencontrerons aussi le groupe Dune, représenté par Madeleine Chiche, à l'origine centrée sur la création chorégraphique. Le groupe Dune intervient aujourd'hui dans l'espace urbain pour des installations à grande échelle. Nous évoquerons leur parcours. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter Anne Le Batard et Jean-Antoine Bigot, fondateurs de la compagnie Ex Nihilo, qui depuis une dizaine d'années invente de nouveaux pas pour les passants qui passent. Ils nous expliquent comment et pourquoi ils ont décidé de travailler dans la rue.
En fait, quand on a créé Ex Nihilo, c'était vraiment un regroupement de danseurs et on avait très envie de travailler sur nos propres matières, en fait. Et la Biennale des jeunes créateurs de la Méditerranée de Lisbonne, à ce moment-là, nous a ouvert l'opportunité de réfléchir sur l'espace public, puisqu'elle avait une discipline qui s'appelait intervention urbaine, je crois. Et qui correspondait vraiment avec un désir qu'on avait d'explorer, de rechercher des nouvelles matières, un autre rapport déjà à la composition chorégraphique, c'est pas travailler avec un chorégraphe. Et effectivement, on n'avait pas un désir absolu de travailler dans une forme un peu conventionnelle. Donc ça nous a lancé sur cette piste de travail. Et c'est vrai que dès qu'on s'est mis à travailler dehors, pour nous, ça a été une ouverture magnifique. Et on est parti dans cette quête-là, en tâtonnant au début. Bon, 12 ans après, forcément, maintenant, on a une expérience et les choix sont affirmés. La recherche s'est affinée. On a maintenant des envies très précises d'aller un peu plus loin dans des domaines qu'on n'a jamais explorés. Mais ça n'a jamais été vraiment par défaut. Enfin, même, c'était vraiment une envie d'ouverture. Et effectivement, changer l'espace, ça a été une vraie réponse.
Un espace parfois hostile, est-ce que ça influence votre manière de danser ?
Je crois qu'effectivement, le fait d'être dehors, on ne pouvait pas se présenter en tant que danseur de studio de la même façon, avec la même danse. Je crois qu'effectivement, un danseur dans l'espace public comme ça est un peu petit pour qu'il puisse s'affirmer et offrir quelque chose à voir. Donc, c'est vrai que nous, on a agrandi notre danse, on a une danse, on parle de prise d'espace, de prise de possession de l'espace, et c'est vrai qu'on a développé une technique, une façon de danser qui est dans l'amplitude, dans l'élan, et je crois que maintenant on a développé aussi une technique pour arriver à ça. Donc on propose des trainings, et c'est vrai qu'à des danseurs plus classiques, on propose ce genre de travail parce que c'est une technique, parce que c'est une façon d'aborder l'espace qui est différente. C'est une façon aussi de se percevoir quand on est danseur, de savoir quelle est sa place et qu'est-ce qu'on va pouvoir montrer, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut être conscient de sa petitesse et d'un moment de sa parole, parce qu'on a envie de dire quelque chose sans crier, sans utiliser d'artifice comme la musique ou quoi que ce soit, c'est le corps qui va devenir l'affirmation de notre discours. Donc ça, voilà. Nous, on a envie de... on cherche ça, et c'est vrai que ça a modifié notre danse, c'est sûr. Maintenant, quand on se retrouve à l'intérieur, parce qu'on travaille aussi à l'intérieur, voilà, des fois, on bute un peu contre les murs, c'est vrai.
Est-ce que travailler dans la rue vous a rendu plus sensible à la détresse qu'on y rencontre parfois ?
De toute façon, nous, on a toujours affirmé le travail de création dans les sites qu'on avait envie d'investir. Donc le fait est, c'est qu'on ne peut pas être indifférent en fait, à la réalité qui nous entoure. Parce que y a beaucoup de gens qui nous voient de manière non indifférente, qui viennent nous demander qu'est-ce qu'on fait, qui sont assez étonnés de voir des gens danser en extérieur en se demandant si on serait pas mieux au chaud, enfin, surtout quand on travaille l'hiver. Mais le fait est, c'est que ça accroche à la réalité, en fait. C'est surtout que par rapport à nos thèmes de travail, à la qualité de relation qu'on demande après aux interprètes, c'est évident qu'elle est forcément enracinée dans une réalité, dans des situations très concrètes. Les remarques des gens dans la rue nous rappellent qu'on est somme toute tous un peu au même niveau, et c'est pas parce qu'on est danseur et artiste qu'on a une situation autre. Donc voilà, ça enracine en fait, je crois, pas mal la danse, les situations, les spectacles dans la réalité et dans le quotidien.
Une volonté de reconquête d'espace délaissé ?
Oui, c'est vrai que je crois que déjà par le fait d'utiliser le corps comme moyen d'expression, c'est déjà une reconquête dans l'espace urbain, ou même dans les choses plus dans les campagnes, etc. Parce que voilà, c'est une chose qui est pas pratiquée. Donc nous, s'il y a les enfants qui jouent dans un espace, après on trouve pas d'adultes qui vont faire des propositions corporelles dans un espace. Donc nous, déjà par notre présence de danseurs, je crois qu'on amène déjà cette part de d'étrangeté, de poésie, de questionnement, et forcément par rapport aux spectateurs ou aux simples passants, parce qu'on a aussi un travail du spectacle et puis de la présence plus informelle, ça amène le passant à voir son lieu, son quotidien différemment, et on amène une certaine poésie à cet espace et aussi un regard différent. C'est vrai que les gens souvent nous font la réflexion de tiens, j'avais pas vu ça comme ça, parce qu'on amène des points de vue, des façons de regarder l'espace d'une certaine façon que les gens n'ont pas l'habitude de faire, quoi. Donc ça, c'est vrai que par ce biais-là, je crois qu'on amène une certaine poésie déjà par ça. Et après...
Après, le fait est, c'est que sur les lieux, il y a deux parties au travail. C'est-à-dire qu'il y a la partie diffusion de spectacles déjà écrits dans le cadre de festivals, qui là ont aussi leurs contraintes de lieu. Et après, il y a des projets plus in situ ou des interpellations de la part de festivals qui cherchent à travers nous à justement aussi avoir ce dialogue avec des espaces un peu différents. Donc le fait est, c'est que quand on a une vraie liberté pour chercher un lieu de représentation, on peut aussi, on est assez séduit par les lieux un peu inhabituel, moins pratiqué. On fuit un peu les places magnifiquement urbanisées. On aime bien aller dans le chaos, dans les endroits. En fait, ça dépend aussi pas mal des villes. Hein. C'est les villes, c'est les lieux qui vont nous attirer, nous séduire. Donc il y a parfois des nouvelles places qui sont très très belles et dans lesquelles on a envie de faire des choses. Après, le fait est, c'est que voilà, on peut On n'a pas peur, on ne cherche pas nécessairement, tu parlais de rue sale, on ne cherche pas nécessairement à danser dans les rues sales. Mais le fait est, c'est qu'on n'a pas peur de s'affronter à une certaine... voilà, une certaine réalité, et on a eu certaines rues complètement dehors, mais qui, voilà, qui par la présence du spectacle révèle une certaine une âme aussi, surtout qu'on fait, on fait fermer les rues, donc il y a un moment aussi où on propose le lieu d'une autre manière, et parfois des rues si passantes, si occupées se révèle super jolie, et puis la résonance avec ce qu'on fait vraiment correspond tout à fait. Donc voilà, il n'y a pas de règle en fait. On essaye vraiment de se laisser séduire par les lieux et de voilà, dialoguer avec les contraintes, les nôtres, celles des festivals ou des structures qui nous accueillent. Et après, un projet comme le projet Belzunce, à l'inverse, là, on avait vraiment envie de travailler dans ce quartier-là pour ce qu'il était, justement, pas offert comme une vitrine touristique de la ville. Et dans ce projet-là, spécifiquement, on avait cet engagement de... On avait déjà proposé, en fait, c'est ce qui a donné lieu au spectacle, enfin au projet, c'est qu'on a joué Salida, la pièce précédente, dans une place derrière la FNAC, le long du cours Belzunce, qui est une espèce de place qui n'en est pas une, qui n'existe pas et qui nous avait vraiment séduit par cette installation. Le cours Belzunce, la bibliothèque était à ce moment-là en travaux, il y a le centre Bourse qui est une espèce de... Voilà, de construction qui va mélanger, enfin, cette construction particulière, des vieux immeubles, un nouveau bâtiment tout en verre. Et cet endroit-là nous a spécialement plu parce que je me souviens plus le nom de la place, mais ça s'appelle une place. Mais c'est un rien du tout, en fait. Et c'est vrai que les gens de la compagnie, les artistes de la compagnie, ont été séduits justement par le choix de ce lieu et nous ont proposé de faire ce projet à Belzunce. Et c'est vrai que pour nous, Belzunce, c'était un engagement spécifique par rapport à ce quartier, à la fois passant, populaire, un enjeu extrêmement politique sur son réaménagement par rapport à la politique de la ville dans son évolution. Et c'est vraiment là qu'on avait envie d'être sur ce projet-là. Et on s'est énormément nourri de cette expérience dans ce quartier. On est aussi allé cette même année à Beyrouth et à Cuba. Donc vraiment dans la rue brute. Et voilà. Et puis ça nous a redonné des nouvelles pistes de travail et chorégraphiques et de rapport avec l'espace.
Le pire et le meilleur.
Bah, c'est un quartier, donc ça, le projet passant, on l'a fait dans le quartier Belzunce, forte population maghrébine, donc il y avait quand même deux danseuses. Donc c'est vrai qu'on a eu un rapport, il y avait ce rapport homme-femme qui était assez étonnant. Bizarrement, les femmes ont eu plus de commentaires et de discussions avec les gens de Belzunce que nous, les deux hommes. Mais après des échanges, ça va de l'insulte caractérisée à la proposition malhonnête jusqu'à l'encensement ou même vraiment des parts de poésie comme Kader, une personne qu'on a croisée, dont on a recueilli les témoignages pour le réintroduire dans le spectacle passant. Plusieurs personnes comme ça qui ont pu nous donner des moments de poésie, les commerçants qui nous attendaient chaque jour parce qu'ils avaient l'habitude de nous voir et donc avec qui soit il y avait une proposition de thé à la main, soit un petit moment comme ça de partage.
À propos de l'engouement pour les arts de la rue.
Je crois qu'il y a eu un besoin pour les arts de la rue de reconnaissance. Donc on a eu un fort... une grosse envie d'avoir ces années des arts de la rue. Je pense que C'est des moyens supplémentaires qui ont été proposés à ne parler des CNAR, là, des Centres Nationaux des Arts de la Rue. Donc il y en a 5, je crois, maintenant. Neuf. C'est des moyens supplémentaires, des possibilités d'accompagner des projets à un plus haut niveau de coproduction. Ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément perceptibles par tout le monde, mais c'est vrai qu'au niveau des compagnies, c'est des choses qui existent. Donc je crois qu'il y a une réalité comme ça qui fait que les arts de la rue se grossissent par rapport aux autres arts. Voilà, je crois qu'il y a eu ce besoin-là. Je crois que c'est bien aussi. Je crois qu'il faut que les arts de la rue gardent leur particularité, qu'on n'essaie pas de faire comme des centres chorégraphiques ou des centres dramatiques. Chacun a sa façon de gérer les arts qu'ils ont à gérer. Mais je crois que ça, c'est le danger de cette arrivée d'argent. J'ai la sensation, c'est qu'il faut vraiment garder l'âme qu'il y a dans les arts de la rue, qui est une âme particulière, une relation particulière entre les compagnies, les grosses compagnies, les petites compagnies, les émergentes, les lieux de diffusion, parce que un rapport avec des lieux de diffusion des arts de la rue n'est pas le même rapport qu'avec des centres dramatiques, avec des scènes nationales, etc. Je crois que donc il y a toute une âme comme ça qui... Bon, ben c'est tout nouveau, mais je pense qu'il faut vraiment que ça... C'est pas le fait qu'il y ait ce coup de projecteur on l'a vu pour les arts du cirque, ça a été... c'est maintenant, c'est passé. Il y a eu certaines compagnies qui en ont bien profité, qui continuent à en profiter, tant mieux. Je pense qu'après, il ne faut pas oublier que ça doit perdurer. C'est toujours ce problème de ces coups de projecteur. C'est d'un seul coup, tout le monde ça porte un intérêt à l'art mis en avant. Et puis quelques années après, il y avait ça, passons à autre chose. Donc je crois que c'est ce danger-là, quoi.
C'était Anne Le Batard et Jean-Antoine Bigot du collectif Ex Nihilo, le point de vue donc d'une compagnie de danse. On va maintenant écouter l'avis d'un programmateur, et non des moindres, puisqu'il s'agit du Merlan, scène nationale à Marseille. Nathalie Marteau, sa directrice, se positionne elle aussi à propos des arts de rue.
Ja, Fion of Une. Alors, le vagabondage, très sincèrement, ne m'a pas rapproché de formes artistiques particulières, comme les arts de la rue. Par contre, ce qu'il a permis, c'est de réaliser d'autres types de relations avec les artistes. Je ne parle même pas du public, mais par rapport à la production, oui. C'est-à-dire, d'abord, de m'apercevoir que ce nomadisme, ce vagabondage est quelque chose d'extrêmement marginal et minoritaire, et que finalement, c'est dommage, parce que finalement, beaucoup d'artistes pourraient travailler et présenter leurs œuvres en dehors de salles de spectacle. Ça aurait beaucoup de sens. Donc ça m'a permis d'entrevoir un territoire et un mode de relation beaucoup plus vaste que ce que j'imaginais avec des artistes. Donc ça, c'est certain. Après, sur certains genres disciplinaires, comme les arts de la rue, peut-être que oui, ça m'a incité à avoir un regard, à m'intéresser particulièrement aux arts de la rue, me disant finalement, je suis dans la situation des arts de la rue, puisque l'extérieur, le dehors, la rue, la ville peut être mon théâtre. Mais le fait d'être une scène nationale avec une programmation comme la nôtre, non spécialisée dans les arts de la rue, a fait aussi que j'ai pu porter un regard beaucoup plus large que ce qui est pratiqué dans les arts de la rue et finalement m'apercevoir, mais ça c'est toujours comme ça, à quel point c'est parfois dommage d'étiqueter, de cloisonner des genres, parce que pour moi ça raconte pas grand-chose les arts de la rue en termes de définition. Ce qui me raconte quelque chose, c'est comment et pourquoi un artiste porte un regard sur la ville, travaille avec la ville et a envie d'investir ses territoires. Et là, j'ai envie de dire qu'on fait exploser le cadre des arts de la rue et que le territoire est beaucoup plus vaste et que, in fine, n'importe quel artiste, je veux dire par là, issu de n'importe quel genre disciplinaire, peut tout à fait produire et présenter une œuvre dans un territoire ou dans un espace qui n'est pas un théâtre. Donc, voilà ce que j'ai envie de dire en réponse à ça.
Sur les raisons de ce vagabondage.
C'est-à-dire que c'est une nécessité, puisque finalement nous nous sommes retrouvés à la rue, si je puis dire, de par le fait que le théâtre devait fermer pour donc que soient réalisés des travaux de rénovation. Et à ce moment-là, on s'est posé la question, en effet, de quoi faire. Et il y avait là le désir de profiter de cette fermeture pour essayer de voir en quoi ça pouvait être l'occasion de s'ouvrir sur la ville. Donc ça, c'était vraiment notre problématique. Et souvent, la contrainte fait naître des choses. C'est-à-dire que la contrainte, c'était comment faire exister un nouveau projet sans qu'il puisse être identifié à un bâtiment et à un lieu. Et donc on s'est dit, ben finalement, on a tout contre nous. Comment on peut un peu renverser la vapeur? Et puis le deuxième aspect aussi, c'était que l'expérience, enfin le regard que je portais sur des théâtres qui ont pu être dans cette situation, a été souvent de planter un chapiteau et finalement de faire une programmation dans un lieu. Et je me suis dit, mais le fait d'être sans le théâtre, est-ce que c'est pas une occasion justement de circuler, d'être dans le mouvement? Donc l'idée du vagabondage est née de ça, de cette nécessité et en même temps un double désir, celui de profiter de cette occasion pour expérimenter des choses et puis ensuite de jouer en effet la carte du nomadisme, d'autant que Marseille, que je connaissais mal à cette époque, quand je regardais sur un plan et que je voyais l'étendue de Marseille, je trouvais que c'était un territoire qui pouvait être propice à ça.
Des critères pour le choix des lieux parcourus.
Oui, c'est-à-dire que le critère premier, c'est vraiment le spectacle qu'on a envie d'accueillir. Alors bien sûr, les spectacles que je peux voir ou les projets que les artistes me soumettent, je dirais que je les lis à travers le filtre de « on n'a pas de salle et on est dans cette situation ». Donc il y a en effet beaucoup d'œuvres que je peux voir ou de projets qu'on me soumet où je sais que de toute façon, c'est dans une salle de spectacle qu'ils doivent avoir lieu. Pour le reste, une fois que le désir est réel d'accueillir un projet ou une proposition, le choix du lieu est complètement déterminé par la manière dont on imagine que ce spectacle peut résonner. Et c'est vrai qu'un des avantages qu'on a finalement réalisé en cours de route, c'est que finalement, alors c'est un peu banal de le dire, mais je trouve que c'est bon de le rappeler, c'est que l'endroit et donc le contexte, les ondes, l'ambiance dans lesquelles un spectacle est programmé, présenté, influe considérablement. Il m'est bien sûr arrivé de voir un spectacle dans une salle de spectacle, puis de le voir dans un autre endroit, par exemple programmé par le Merlan, et de m'apercevoir vraiment à quel point il était important de travailler sur les conditions dans lesquelles on présente un spectacle ou une œuvre. Donc le vagabondage permet ça, et bien sûr que le premier critère, c'est en effet le spectacle, ce qu'il raconte, comment il le raconte, quel rapport au public il induit, et à partir de là, on explore et on recherche. Je pense pas que pour l'instant, le fait d'être dans cette situation de vagabondage a réellement influencé un choix ou a été un critère. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas retrouvé en position de voir une œuvre ou de prospecter en se disant « Tiens, on va chercher des choses pour le vagabondage ». Ça, non. Parce que les choses ne sont pas déclenchées de cette manière-là. Écarter des spectacles, oui, de très nombreux, ça c'est évident, parce qu'il y a beaucoup de spectacles qui ne peuvent être que présentés dans une salle et sur un plateau. Et évidemment, connaissant la situation à Marseille, on peut très bien imaginer les possibles. Et donc, et beaucoup de spectacles ont été écartés. Mais c'est vrai que le critère du choix de la programmation est vraiment pas déterminé, je dirais, par des contingences matérielles, mais vraiment pour d'autres raisons. Donc ça, c'est un autre sujet.
Le hip-hop et la danse contemporaine.
Là, ce que j'ai quand même envie de préciser à ce stade-là, c'est que le genre disciplinaire n'est pas un critère ni un levier pour la programmation. Puisque on a fait le choix, enfin j'ai fait le choix dès que j'ai été candidate, de poser la question du corps comme fil directeur de la programmation, ce qui était une manière très claire de dire que la question du genre n'était pas première. Et je sous-entendais même que peut-être que pour le public non plus, elle ne l'était pas. Donc, je ne vais pas porter un regard sur la production artistique en fonction des genres artistiques. Donc ça, c'est une chose très claire. Après, le hip-hop est un genre, effectivement, en tant que tel. Je ne saurais pas sur quoi m'appuyer pour porter un avis ou un jugement sur ce genre-là. Dire le hip-hop, c'est comme ci ou c'est comme ça. J'appréhende beaucoup plus le hip-hop comme une pratique du corps, comme de la danse. Et à l'intérieur de ce domaine-là, eh bien, il y a des artistes avec des projets et c'est vraiment si programmation il y a, puisque ça a été le cas. On a fait une manifestation autour du hip-hop déjà, qui s'appelait E-Hop. Et en fait, c'était beaucoup plus une relation et une envie de présenter tel ou tel artiste. Nous allons faire revenir une compagnie qui pour moi est très importante, qui n'est pas française, qui est brésilienne, qui s'appelle Membros. J'ai envie de parler d'eux parce que pour moi ça a beaucoup de sens, c'est-à-dire qu'en effet, comme tu dis, c'est une danse qui vient de la rue. Donc pour moi ce qui est important, c'est le fait qu'elle vienne de la rue, en quoi ça influe son vocabulaire, en quoi ça influe son processus de création et ce qui est raconté au public. Et ça, je pense que c'est important de le prendre en compte. Et c'est vrai que Membros, parce qu'ils viennent du Brésil, finalement c'est pas qu'ils parlent aux gens de la rue, c'est qu'ils parlent de ça et ils nous donnent l'impression qu'il n'y a que ce vocabulaire-là, ce langage-là qui peut parler des choses avec cette puissance et cette force, à savoir le langage hip-hop. Donc tout ce qui est adaptation du hip-hop de manière théâtralisée ou sur les plateaux des théâtres m'intéresse assez peu. Par contre, je peux tout à fait reconnaître une œuvre extrêmement intéressante et finalement qu'elle soit hip-hop ou pas hip-hop. Mais je pense que c'est un genre qui mérite complètement notre attention. Et je me rappelle avec amusement qu'il y a maintenant quand même un petit paquet d'années, bon, on prévoyait beaucoup de choses sur le hip-hop comme un phénomène de mode, etc. Et on voit bien que ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est intéressant de s'interroger là-dessus.
Le théâtre, le spectacle en général, n'est pas un lieu, mais un moment. Tu es d'accord avec ça ?
Ben oui, je suis forcément d'accord parce que je sens que ce qu'on nous renvoie du travail qu'on mène, c'est complètement ça et que c'est vrai que le vagabondage le permet. C'est-à-dire que nous, tout le travail qu'on fournit, c'est pour dire aux gens, on vous donne un rendez-vous. ce qui n'a rien à voir avec la sortie traditionnelle au théâtre. Donc je pense que pour nous, ce qui est important, c'est de sortir finalement le théâtre, donc au sens large, d'un moment codifié, mais plutôt d'en faire un moment qui fait partie de la vie. Donc tout l'environnement du spectacle est évidemment important, et je trouve que la notion de rendez-vous, elle est à la fois dynamique, et puis elle marque aussi le caractère unique de chacun de ces moments, tout comme dans notre vie, les rencontres qu'on peut faire, les espaces qu'on découvre sont toujours des moments uniques. Et bien là, c'est vrai que l'idée du moment partagé me paraît beaucoup plus ouvert que assister à une représentation et être purement spectateur. C'est-à-dire que finalement, il y a des territoires qu'on peut librement explorer, et sortir du fauteuil du spectateur pur et dur ou du hall de théâtre en marbre avec tous les codes, ben c'est une chose qui n'est préjudiciable à personne, et je vois pas pourquoi on le ferait pas. Donc c'est vrai que le vagabondage nous permet de le faire, et que moi je suis très attachée à cette relation qui peut exister entre l'art et la vie, c'est-à-dire comment des préoccupations d'artistes sont des préoccupations de tout le monde, et que le moment où on invite le public doit être un vrai moment de vie partagée. Voilà.
Ma va.
Bientôt la fin du vagabondage. Est-ce que tu l'appréhendes ?
Je me réjouis de constater que beaucoup appréhendent, entre guillemets, ce retour à la maison, où d'un seul coup on va baisser le rideau, on va plus être curieux, on va plus aller voir personne, on va mettre les charentaises, fermer les volets et être tranquille dans notre petit nid douillet. Donc je pense que c'est évidemment pas ça, puisque après une expérience aussi belle et aussi forte, il y a une double question. La première question, c'est comment cet esprit de vagabondage, parce que le vagabondage, c'est un état d'esprit, c'est devenu un état d'esprit, comment cet état d'esprit, on va le déployer à l'intérieur des murs. Ça, c'est évidemment notre question. Et puis la deuxième chose, c'est en effet, c'est quoi un théâtre aujourd'hui ? C'est quoi une maison ? Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on va forcément l'interroger en perspective de ce vagabondage. Donc, je pense que on va pas se transformer du jour au lendemain, et qu'au contraire, on va essayer de faire rentrer dans ce théâtre et dans cette maison toute l'expérience du vagabondage, et poursuivre d'une manière ou d'une autre ce vagabondage. Ça sera forcément d'une autre manière, mais aussi parce que on en a vu de très gros bénéfices qu'on n'imaginait pas forcément. Et puis le nomadisme ou les spectacles qui ne sont pas forcément présentés dans les théâtres n'ont pas toujours une bonne image de marque. Souvent c'est relégué à du théâtre amateur ou du théâtre populaire au sens plutôt négatif, et j'ai envie de m'atteler à ça, de prendre en compte ce qu'on a fait et de faire de ce théâtre une maison ouverte, mais une maison tellement ouverte que plusieurs chemins partiront de cette maison, croiseront le chemin des autres, et voilà.
On écoutait Nathalie Marteau, directrice du Théâtre du Merlan. Troisième moment de rencontre autour de la danse Hors les Murs. Quelques mots maintenant de Madeleine Chiche, qui co-dirige le groupe Dune avec Bernard Misraki. Le groupe Dune, venu de la danse et ayant assez radicalement changé de mode d'expression en abordant l'espace public, puisqu'ils y réalisent aujourd'hui des installations multimédia à grande échelle. Madeleine Chiche nous retrace leur parcours.
En réalité, c'était pas, il n'y avait pas un choix au départ, une décision de se dire on va intervenir dans l'espace public. Je crois que c'est vraiment venu dans la continuité du travail, notamment du travail avec les images, les projections d'images, parce qu'on cherchait vraiment, on avait envie de projeter les images sur des murs, sur des surfaces avec de la mémoire. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans les friches d'ailleurs, à créer tous nos spectacles dans les friches. Et de fil en aiguille, on a trouvé un jour un lieu magnifique sur lequel on a eu envie de proposer un travail. Donc il y a été une installation et vous êtes ici finalement.
Que penses-tu de l'idée d'un corps paysage ?
Pourquoi pas, hein, je sais pas, j'ai pas vraiment réfléchi à ce terme-là, à ces termes-là. Si ce n'est que quand même dans nos installations, le corps des spectateurs est très présent. Donc je crois que ce travail n'abandonne pas du tout la relation au corps, leur présence, leur déplacement, le rapport dans lequel ils se trouvent aux différentes échelles, aux différents... différentes distances. Enfin, donc je crois que le corps est très présent dans les installations.
Maintenant, ce sont les spectateurs qui dansent.
Bon, ils ne remplacent pas tout à fait les danseurs quand même, parce que le travail de danseur, c'est encore un peu autre chose. Mais effectivement, je crois qu'on a quand même conçu, on conçoit quand même les installations systématiquement en pensant aux spectateurs. Donc en imaginant, ou en tout cas en créant des situations pour que lui puisse se déplacer, pour qu'il puisse intervenir ou interagir en tout cas avec tous les éléments qu'on lui propose, aussi bien les projections d'images que la spatialisation du son, ou puis maintenant des signes lumineux qui s'ajoutent à ces autres matériaux.
La question de l'échelle humaine.
C'est difficile de raconter la genèse parce qu'en fait chaque situation est différente. Donc depuis qu'on fait ce travail, on a rencontré à chaque fois des propositions spécifiques. Mais quand même, la question de l'échelle, effectivement, c'est une donnée essentielle. Et je crois qu'en fait, en étant danseur, enfin je sais pas, hein, peut-être que ça a joué, ou peut-être qu'on était... particulièrement curieux, nous, de ces choses-là d'emblée. Mais en étant danseur, je crois qu'on a une appréhension de l'espace qui est très physique. C'est vrai que l'espace, c'est presque un exercice pour les danseurs. Donc il me semble qu'à chaque fois qu'on aborde un lieu, on le parcourt, on essaie de le ressentir physiquement. Donc il y a cette notion-là, je crois, qui nous est très, très, très proche et qu'on aborde d'une façon assez intime. Et il y a aussi donc cette question d'intimité, c'est-à-dire qu'effectivement, comme on travaille beaucoup sur la notion d'intimité, c'est vrai que dans toutes les installations qu'on essaie de réaliser, on essaie toujours de retrouver une échelle humaine, même si il y a des grandes distances, même s'il faut parcourir, même si il y a des rapports de vision très éloignés. On essaie toujours de trouver la manière de rendre intime, enfin en tout cas de faire en sorte que le spectateur trouve une relation intime avec la proposition qu'on lui fait.
Une surenchère dans la taille des spectacles, toujours plus grand, toujours plus beau.
Surenchère, non, parce qu'en fait, je crois qu'on arrive assez maintenant, assez bien, à travailler justement sur des formats très différents. Donc voilà, on n'est pas systématiquement sur l'immensité ou sur des formats gigantesques. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que justement, ça nous permet tout le temps de garder cette relation. À la fois à l'intime et cette possibilité de la retrouver donc sur des échelles plus grandes. Bon, en même temps, je ne sais pas, je pense à l'installation des façades, qui était quand même une installation faite vraiment pour être vue de loin. Donc là, on travaille vraiment par rapport à la proposition du lieu. Je crois que c'est vraiment ça qui est aussi important. C'est-à-dire qu'on essaie aussi de poser les signes aussi bien images que lumineux, vraiment en relation avec l'échelle des lieux. Donc c'est vrai que parfois ça nous entraîne à mettre des écrans qui mesurent 24 mètres de haut sur 8 mètres de large. Mais à la fois, c'est aussi important de considérer la géographie quoi, et la nature des lieux. Donc ça c'est, et puis je crois que ça fait vraiment partie intégrante de notre travail. Donc c'est quand même ça qui rentre en ligne de compte. Et puis après tu parlais de la façon dont on travaillait. Alors effectivement, c'est pas très simple, pas toujours simple d'avoir affaire à des dimensions, de grandes dimensions, et puis après de se retrouver sur une espèce de maquette ou d'espace plat, parce qu'on travaille quand même beaucoup, même si nous est arrivé de faire des maquettes objets, on travaille quand même le plus souvent sur Photoshop. Ou bien, enfin Photoshop, mais qu'on anime après avec du mouvement. On intègre des images animées ou des mouvements des lumières. Donc ça, c'est toujours un problème. Ça fait un peu peur. Et puis finalement, on se rend compte que, ben, en général, les installations souvent ressemblent assez aux images. Donc voilà, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est le hasard ou des espèces d'intuitions qu'on a comme ça qui fonctionnent.
Un intérêt particulier pour les lieux délaissés ?
C'est-à-dire que moi, les lieux délaissés, en réalité, je n'ai jamais trouvé qu'ils étaient moches. Hein. Donc, je crois qu'on est parti un peu de là, en fait, dans notre travail, justement, de recherche de lieux spécifiques. Nous, ce qui nous a toujours intéressés, ce sont quand même ces espèces de lieux vagues, pas encore aménagé ou en instance de l'être. Donc voilà, je trouve qu'il y a toujours... ce sont toujours souvent des lieux très riches d'informations, en fait. Justement, peut-être parce qu'ils ne sont pas encore aménagés ou on n'a pas encore pas trop fonctionnalisé. donc ils sont un peu chaotiques et un peu de désordre, il y a toujours un peu de désordre, donc non, c'est des lieux qu'on aime beaucoup et évidemment c'est vers ces lieux-là qu'on va en général.
Quelques mots à propos de l'architecture industrielle.
Donc c'est vrai que, enfin, évidemment, ce sont des lieux forts. Je crois que ce sont des lieux forts d'abord parce qu'ils ont correspondu à des fonctions importantes dans la technique humaine de l'homme. Après, bon, la question de la beauté, bon, pour moi, c'est pas forcément une question. Hein, donc je trouve souvent effectivement qui marque assez fortement l'architecture des sites dans lesquels ils s'inscrivent. En faire des monuments historiques, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets, notamment il y a des très beaux projets, notamment en Allemagne où on réaménage ces sites en gardant leur force et leur présence, et en changeant leurs fonctions, mais ça reste encore des lieux très vivants. Donc ça c'est bien, ça je pense que c'est bien. Après vouloir les garder pour en faire des monuments historiques, j'en sais rien. Moi je pense que par moment on est obligé aussi d'en détruire certains. C'est vrai que là en ce moment à Marseille, là, puis près de la Friche, il y a beaucoup de il y en a beaucoup qui sont en train d'être rasés, remplacés par des logements particulièrement... alors là, pour le coup, j'ai envie de dire laid, hein, en fait. En tout cas,
tu évoques le comptoir Toussaint, par exemple ?
Oui, le comptoir, mais pas, oui, bien sûr, mais aussi très proche, là, dans la rue Guibal. Des aménageurs qui n'ont pas du tout, qui réfléchissent pas, ou qui n'ont pas du tout envie de... d'inscrire ça dans des vrais projets d'urbanisme ou architecturaux, et c'est dommage. Donc là, je préférerais effectivement qu'ils gardent les bâtiments industriels.
Les villes, elles se ressemblent toutes ou bien chacune est singulière ?
Les deux, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, parfois la réhabilitation, les zones piétonnes, il y a un ensemble d'aménagements comme ça qui font en sorte d'uniformiser tous ces sites. Et puis en même temps, quand on se balade, il y a quand même des spécificités, il y a des géographies particulières, il y a... voilà, il y a des lieux, enfin voilà, tout ne se ressemble pas, voilà, toutes les villes ne se ressemblent pas, tous les habitants de ces villes ne se ressemblent pas. Donc je crois qu'il y a encore beaucoup de choses, beaucoup d'espaces et de gens qui restent singuliers.
Merci à Madeleine Chiche du groupe Dune pour sa participation à cette émission Nomade, ainsi qu'à Nathalie Marteau pour le Merlan et Anne Le Batard et Jean-Antoine Bigot pour la compagnie Ex Nihilo. Toutes les infos sur la programmation à venir de ces trois structures sur leurs sites respectifs, pour Ex Nihilo www.carwan.info, pour le Merlan, www.merlan.org, et pour le groupe Dune, www.groupedune.net. Prochaine émission dans cette thématique, c'est demain à 18h avec Inventer le hors les murs, une émission de Marc Voiry, un débat entre artistes, politiques, acteurs culturels et sociaux. D'ici là, bonne écoute sur La Grenouille.